c'est pas, c'est, ce n'est pas un hasard que un historien anglais bien connu, Eric Hobsbawm, a marqué les mythes, les dates du XXe siècle politique. Du XXe siècle court, comme il l'a défini, par les deux grandes dates, octobre 1917, la révolution bolchevique en Russie, qui avait suggéré une éventuelle porte de sortie de la crise liée avec la Première Guerre mondiale, et la perestroïka de Gorbatchev, la chute du mur de Berlin en 1989 et l'éclatement de l'URSS. Donc l'histoire de l'URSS, c'est aussi en quelque sorte le concentré de l'histoire politique du XXe siècle. Bon, pour moi, c'est une belle occasion de revenir vers le bilan de Gorbatchev, mais aussi vers son projet. Le projet que j'appelle le projet de monde Gorbatchev. Le projet qui, de mon point de vue, comprenait de grands volets. Le premier, la transformation de son pays, l'assistance, l'accompagnement de l'évolution de la Russie soviétique à l'époque, dans la sortie de ce que représentait le projet bolchevique engagé en 1917, mais aussi la transformation du monde avec l'engagement et l'association de la Russie vers cette grande et énorme œuvre, sans lequel eh bien, l'histoire du monde ne serait pas complète. Parce que, il faut bien le rappeler, la révolution bolchevique, en fait, si on la résume en une phrase, était une tentative de proposer au monde une sorte d'une version alternative de l'histoire. Un projet qui s'est avéré finalement utopique, un projet dont la réalisation a exigé d'énormes efforts, des grands sacrifices de ces peuples, le projet qui a apporté comme ses résultats des grandes acquisitions. N'oublions pas la contribution majeure de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme dans la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas l'Union soviétique de Gagarine, qui était le premier pays à lancer l'homme dans l'espace. C'était, ne l'oublions non plus, c'était à l'époque de l'Union soviétique, c'est comme ça que s'appelait la Russie de Gorbatchev, était là le plus grand pays du point de vue de son espace. C'était la deuxième superpuissance nucléaire mondial, c'était un des derniers empires. Ça vient, il faut le reconnaître, mais c'était un facteur capital important qui était un élément indispensable qui garantissait l'évolution et, dans un certain sens, la stabilité du monde. La stabilité, on peut le dire, peut-être perverse, la stabilité de l'époque de la guerre froide, mais la stabilité qui basait sur l'équilibre nucléaire entre les grandes puissances, entre l'Est et l'Ouest, bon, présentait une sorte de monde fragile, précaire, dangereuse, et un monde qui courait pratiquement à chaque occasion le risque de chuter vers une crise et vers une confrontation fatale. Donc, ceci était ces deux composantes de ce monde. la Russie soviétique et le monde coupé pratiquement en deux sphères d'influence, comme la Lune, avec un côté éclairé, un côté sombre, sauf que, eh bien, pour ce qui concerne la définition de la côté sombre et éclairé, chacun avait ses opinions et ses définitions opposées. Gorbatchev arrive aux commandes de ce pays pratiquement au bout de 70 ans de la tentative de la réalisation de ce projet bolchevique lancé en 1917. Au moment où ce projet, avec tous les résultats qu'il a apportés en transformant l'ancienne Russie des tsars arriérés, arrivait à l'essoufflement. Au moment où très nettement l'Union soviétique, même si elle donnait l'impression d'être une puissance incontestable, comparable au monde occidental et surtout à son grand rival des États-Unis, n'en pouvait plus. Et ce qui était surtout important, c'est que la société soviétique n'acceptait plus de payer ce prix énorme qu'avait été payé par la société soviétique à travers les 70 ans de l'histoire soviétique pour la modernisation brutale, dans un certain sens barbare, de cette société, au départ assez arriérée, en un État moderne, mais un État qui était au bout du souffle, au bout du rouleau, qui était avec un système et un régime qui était en train de perdre la compétition avec le temps, sans parler de la compétition avec ses rivaux et concurrents occidentaux. Gorbatchev, donc, arrive aux commandes de cet État en 1985, aussi au moment où il est amené à constater que le monde de la guerre froide, le monde qui marche sur une glace très fine depuis le déclenchement de l'arme nucléaire. Ceux de vous qui avaient eu la possibilité de voir le film Oppenheimer ont eu l'occasion peut-être de revenir dans cette époque sombre, dans ce tunnel, je dirais, de l'histoire de la guerre froide dans lequel nous nous trouvions tous sans être certains de ce que nous verrons un jour la lumière à la sortie de ce tunnel. Et donc, l'ambition, le projet, l'espoir de Gorbatchev était d'essayer de faire revenir ce monde. Bon, ne l'oublions pas, c'était un fils de paysan, c'était quelqu'un qui raisonnait pas seulement un homme politique, un homme d'État, un grand chef d'une grande puissance, mais aussi en paysan, de faire revenir au bon sens. Par exemple, il me disait à plusieurs reprises, il ne comprenait tout simplement la logique ou la raison de ce que des deux côtés du mur de Berlin, du rideau de fer, des côtés de la barrière entre l'Est et l'Ouest, ces deux parties du monde étaient amenées à dépenser la grande partie, si pas la majorité de leurs ressources, pour la préparation à la guerre impossible, à la guerre suicidaire. Parce que, à l'époque, même celui qui oserait déclencher cette guerre, eh bien, aurait le triste privilège de se suicider en deuxième par rapport à son rival. Mais évidemment, pour y accéder, il fallait commencer chez lui. Il fallait balayer devant sa porte, il fallait essayer de transformer, de reformer la société soviétique qui était déjà travaillée, qui était défigurés, qui étaient handicapés suite à les 70 ans de l'expérience bolchevique. Et cette fois, Gorbatchev, qui avait au départ, comme ce qu'il n'hésitait pas à le rappeler, comme exemple l'œuvre et le projet de Lénine, a voulu le faire, comme je lui disais parfois, en choisissant d'être une sorte de d'anti-Lénine, c'est-à-dire pas un révolutionnaire avec connaissance à l'avance tout l'énorme prix en vie humaine et en ressources humaines et en souffrance qu'allait apporter une nouvelle révolution pour cette société, mais en la réformant, entraînant avec lui l'ensemble de la société dans ce projet de réforme. Voilà pourquoi Gorbatchev choisit comme moyen de cette réforme ces deux leviers, la glasnost, la transparence, l'appel à la société, une tentative d'entraîner l'ensemble de la société, une expérience inhabituelle pour la société soviétique, très politiquement au bout de 70 ans du régime autoritaire en Union soviétique, dans l'action politique consciente, contradictoire, ouvrant la voie à la confrontation des différentes positions, des différentes opinions, de l'action des différentes forces, mais surtout ouvrant la voie à ce que cette société prenne conscience de sa responsabilité pour la gestion de ses propres affaires, mais aussi pour son image et son apport dans l'évolution du monde. Voilà pourquoi la glasnost, la perestroïka, un autre volet, un autre levier de son projet de réforme, c'est l'introduction de la démocratisation dans ce système régné par le régime d'un parti unique, un système, un régime qui a oublié la notion même de libre, élections, de débat, de la confrontation des différentes positions. Avec ces deux leviers, il part à l'assaut de son projet de la transformation de la Russie et du monde. Et le monde, pour lui, c'est un défi aussi important que la transformation de la Russie. Parce que il s'agissait d'un monde qui était coupé non seulement par le mur de Berlin depuis 1961, par le rideau de fer depuis 1946, mais coupé par la méfiance et par aussi la tentative de chaque côté de partager le reste du monde, pas seulement l'Europe, pas seulement l'Allemagne, pas seulement le Berlin, mais le monde tout court, le monde depuis l'Asie, en passant par l'Afrique jusqu'à l'Amérique latine, avec Cuba qui devenait une composante de cet énorme empire sur lequel régnait l'Union soviétique. Le moyen, le mot d'ordre, le devise choisi par Gorbatchev, c'était, d'ailleurs il l'a annoncé dans son grand discours à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 88, la liberté de choix. Il annonçait la liberté de choix de chaque peuple pour l'organisation de la société, pour le système politique, mais aussi la liberté de choix de ses alliances, de sa famille politique, de ses alliés, de ses partenaires. Et c'était une ouverture inédite, c'était une expérience évidemment première pour des générations entières des soviétiques, mais aussi, dirais-je, aussi pour des générations de politiques à l'Occident qui ont pris du temps, et peut-être ont pris trop du temps, pour faire confiance, pour suivre, pour entendre Gorbatchev dans la proposition qu'il leur faisait de faire face au monde global, au monde dont les problèmes sont depuis longtemps devenus communs pour l'ensemble de l'humanité. Des problèmes qui ne peuvent pas être résolus sur la base des projets idéologiques et qui exigent à ce que le rideau de la méfiance entre les peuples et les systèmes et les blocs soit aboli. Voilà le projet, l'ambition d'un homme à la tête d'un État soviétique, d'un homme de 54 ans, d'un homme qui, tout simplement, croyait qu'il va être compris, il va être suivi, qu'il trouvera le soutien à travers le monde, tout simplement parce qu'il s'agit non seulement pour ce monde de trouver la voie vers son progrès, vers son évolution, mais vers sa survie. Et Gorbatchev réussit en partie. Son projet qui s'était avéré être moins utopique finalement que le projet léniniste. Parce que uniquement en 6 ans, Gorbatchev a réussi en retirant les troupes soviétiques de l'Afghanistan, en permettant la chute du mur de Berlin et l'unification de l'Allemagne, en engageant pour la première fois depuis 1945 les vraies négociations pour le désarmement nucléaire, a transformé ce monde, pratiquement en le transformant en un seul, en une entité qui était normalement, selon lui, il devrait être prêt pour affronter les défis du monde globalisé, qui devrait pouvoir réorienter ses ressources vers la solution de ces vrais défis, le défi climatique, le défi de la santé, le défi de la nourriture, le défi de l'énergie, le défi de la compréhension et de la recherche des compromis entre les différents systèmes, peuples, races et idéologies. Quand je dis que Gorbatchev a réussi en partie, je crois que vous m'accordez que c'est un constat modeste. Le monde actuel est loin d'être celui dont rêvait Gorbatchev. Il espérait ce que, comme il l'appelait, il les appelait les dividendes de la paix, bref, les ressources qui pourraient être économisées avec le renoncement à la course aux armements peuvent être orientées vers le développement, vers l'avancée des régions les plus aliénées, les plus retardées, laissé du côté par la mondialisation progressive. Ces dividendes de la paix, pour Gorbatchev, ne devaient être plus développés pour l'accumulation, la construction et encore moins l'utilisation des armements comme si on ne parvenait toujours pas à sortir de l'époque des siècles précédents, du 20e, du 19e, du 18e et les autres. Donc Gorbatchev reste et restera comme l'homme dont l'action a permis au monde de sortir de la guerre froide. De la guerre froide, maintenant, on commence à leur attribuer des numéros. De la guerre froide, numéro 1. Parce que, déjà, nous sommes dans un autre monde, dans un monde qui hésite à se définir entre la guerre froide numéro 2.0, entre l'avant-guerre de la Troisième Guerre mondiale. Il y a même certains, ceux dont le pape qui croit que déjà la Troisième Guerre mondiale, dans une nouvelle forme, pas encore la plus chaude, soit déjà commencée. Et l'échec partiel de Gorbatchev, après les grandes réalisations qu'il a obtenues à la fois dans son pays, mais aussi en Europe et à travers le monde, est dû au fait de ce que finalement la chance offerte par Gorbatchev n'a pas été bien utilisée des deux côtés de l'ancien barrière qui séparait le monde, ni du côté de la Russie, où les élites nationalistes, la nomenclatura, l'ancienne bureaucratie qui se jointe à la nouvelle, s'était révoltée contre le vent de la perestroïka, les vagues de changement. J'en profite pour rappeler que les vagues de changement, c'était le titre que le forum politique présidé par Gorbatchev a choisi comme titre de l'événement qu'on a convoqué ici à Montpellier il y a 2 ans. La Russie n'a pas passé, les élites russes n'ont pas passé le test de la liberté offerte, accordée, proposée par la perestroïka. Mais de l'autre côté de l'ancienne ligne de démarcation, côté occidental, ce monde occidental, lui, à son tour, n'a pas su profiter de cette chance historique que représentait ce que j'appelle parfois la comète Gorbatchev, la chance Gorbatchev. Parce que il n'a pas entendu la proposition gorbatchevienne d'intégrer la Russie dans la famille européenne d'abord et mondiale ensuite. Elle est restée sourde au projet de la maison commune européenne que Gorbatchev a suggéré, proposant à ce qu'en Europe, on abolit les deux blocs militaires opposés, le pacte de Varsovie et l'OTAN, et d'ailleurs il a pris l'initiative de dissoudre le pacte de Varsovie tant que l'OTAN ne soit pas dissoute, au contraire. Et surtout, l'Occident n'a pas trouvé du courage, peut-être des ressources à la fois politiques, mais aussi intellectuelles, pour comprendre que la transformation de la Russie ancienne, de la Russie d'abord tsariste, ensuite soviétique, malade de son passé autoritaire, la transformation de cette Russie en une société moderne, démocratique, ouverte vers l'Occident et surtout vers sa famille naturelle qui était l'Europe, n'a pas trouvé de courage pour proposer à cette Russie une nouvelle hausse politique du type qu'avait été élaborée dans les années 70 par Willy Brandt, inspiré d'ailleurs par la vision du général de Gaulle qui ne cessait d'évoquer son souhait de voir l'Europe, la grande Europe, la vraie Europe, réunie depuis depuis Brest jusqu'à l'Ural, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Ural. Et donc, la Russie est restée derrière ce nouveau mur, cette nouvelle barrière qui s'était érigée par les vagues progressives de l'élargissement de l'Union européenne, incorporant les anciens pays du pacte de Varsovie, mais aussi et surtout par l'OTAN, qui est resté un bloc militaire, qui est resté un bloc de l'endiguement stratégique de la Russie, qui était une sorte de signe de méfiance de ses capacités de se transformer et de se démocratiser. Voilà pourquoi nous assistons à un recul, à une régression par rapport à ce que représentaient les 6 années glorieuses, dirais-je, de la période gorbatchevienne, surtout sur la scène internationale. Souvenons-nous, cette période était caractérisée non seulement par et va rester dans l'histoire par la disparition du mur de Berlin, l'unification de l'Allemagne et de l'Europe, par le retrait des troupes soviétiques de l'Europe de l'Est, par la première conclusion des traités de désarmement nucléaire avec la liquidation, première fois dans l'histoire, des nouvelles armes nucléaires, des missiles de moyenne portée, mais aussi par le retrait volontaire des troupes soviétiques de l'Afghanistan. Mais dans les autres régions du monde, on a pu voir l'effet, le souffle de la perestroïka avec la chute du régime de l'apartheid initié par les dirigeants de l'époque qui étaient fiers de se croire, de se présenter en des Gorbatchev de l'Afrique du Sud. L'arrêt des conflits civils à Angola et à Mozambique, mais même au Moyen-Orient, et c'est peut-être pendant ces jours où nous vivons, où nous entendons le souffle du déclenchement du nouveau conflit au Moyen-Orient entre l'Israël et la Palestine, c'était encore une fois les années Gorbatchev. C'était pendant les quelques derniers mois de son présence au pouvoir que Gorbatchev a arraché à son partenaire occidental, George Bush Senior à l'époque, l'accord pour convoquer à Madrid la conférence de Madrid qu'il a co-présidé avec George Bush et qui a parvenu à réunir dans la même salle de conférence les leaders palestiniens et israéliens, cette conférence qui a ensuite donné naissance au processus d'Oslo. Voilà le bilan de ces 6 années de la perestroïka. Et voilà que 12 ans plus tard, bon, plus déjà, si on compte depuis la démission de Gorbatchev et son départ de la tête de la Russie et de l'Union soviétique, nous constatons une régression dangereuse, un retour peut-être non seulement de la nouvelle guerre froide, mais surtout de la nouvelle course aux armements. On ne pense plus à la distribution des dividendes de la paix si chèrement arrachée à l'histoire précédente pour les besoins collectifs et communs de l'humanité. Les dépenses et les budgets militaires partent vers le ciel. On assiste dans ces derniers jours à l'annonce de ce que les traités qui avaient été même signés entre la Russie et les États-Unis sont annulés. L'un après l'autre, les Américains et les Russes sortent des traités des euromissiles, mais aussi des essais nucléaires. Bref, nous sommes à nouveau dans le cas zéro, très préoccupant, plus préoccupant à mon avis, à cause du fait de ce que si vers la fin de la première version de la guerre froide, on a eu la chance et on a pu constater que c'était possible la venue en Russie d'un projet personnifié par quelqu'un comme Gorbatchev. Maintenant, avec la Russie actuelle, qui avait déclenché il y a déjà bientôt 2 ans la guerre en Ukraine et qui est récidive et qui est nostalgique des territoires perdus de l'ancien empire soviétique et tsariste, on peut difficilement envisager la perspective de la réapparition après Vladimir Poutine de nouveau Gorbatchev. Parce que l'expérience que la Russie, mais aussi le monde, avait vécue après le départ de Gorbatchev n'incite pas à l'optimisme. Je vais terminer quand même en évoquant ce qui pour moi reste la raison de rester optimiste. Je suis obligé parce que je reste optimiste, c'est le titre d'un des derniers livres qu'avait écrit Gorbatchev, qui évidemment se sentait déçu, se sentait trahi chez lui, mais aussi par ses partenaires occidentaux, mais qui me disait souvent, et qu'il a écrit dans son bouquin, qu'il restait optimiste parce que, eh bien, la taupe de l'histoire continue à creuser et qu'il plaçait sa confiance dans ce que j'appellerais la génération Gorbatchev. Pas dans la génération politique des successeurs immédiats qui avait suivi en Russie et dans les autres pays du monde la période où il était aux commandes, mais la nouvelle génération qui n'a pas connu la peur nucléaire, qui n'a pas connu la division du monde par les frontières artificielles, surtout idéologiques, et qui est consciente de ce que la communauté des problèmes de ce monde devra exiger à la fois sur la base du bon sens, mais aussi de l'énergie, de l'audace intellectuelle et morale de cette nouvelle génération, eh bien, la pousser à refaire l'expérience et rouvrir les portes dans lesquelles Gorbatchev, comme il disait lui-même, est pendant les 6 ans de son action. Je remercie encore une fois les organisateurs de cette cérémonie, les initiateurs du projet de la plaque commémorative. Je vais bien sûr transmettre l'image de cette plaque à la Fondation Gorbatchev en Russie et ils vont peut-être trouver une place pour la mettre un endroit digne du rappel du nom, de l'image et de l'action de Gorbatchev. Ce rappel dont la Russie est autant besoin que le reste du monde. Je vous remercie.
Alors, oui. La question... Pendant ces derniers mois de vie, Gorbatchev était choqué par la guerre qui a commencé en Ukraine. Mais il n'est pas opposé publiquement ni à la guerre en Ukraine, ni contre le régime de Poutine. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez?
Bon, la question, bon, la réaction de Gorbatchev dans les derniers mois, pratiquement, de sa vie. Une question compliquée. Bon, déjà, n'oublions pas que dans ces derniers mois, il était beaucoup affaibli par la maladie et il passait, on peut dire, l'essentiel de son temps dans l'hôpital. Mais en fait, moi, je dirais, personne n'avait de doute au sujet de la position de Gorbatchev concernant la politique poutinienne à l'égard de, dans le cas ukrainien. Il suffit pour cela se souvenir ou évoquer les déclarations de Gorbatchev, lui-même d'ailleurs moitié russe, moitié ukrainien, puisque sa mère était ukrainienne, son père était russe. Et si vous relisez les textes, les déclarations publiques de Gorbatchev, au moment où les dirigeants russes et ukrainiens de l'époque, Yeltsin et Kravchuk, préparaient leur projet de partage de l'ex-URSS et surtout de la séparation entre la Russie et l'Ukraine, Gorbatchev avertissait contre le déclenchement des conflits qui jusque-là étaient restés cachés à l'intérieur de l'URSS. Il voyait bien une sorte de multitude de bombes à retardement que représentaient les foyers des des populations ethniques qui jusque-là, la multitude qui caractérisait tout l'espace de l'Union soviétique, qui tant qu'il était, il faisait partie de l'espace commun de l'Union soviétique, ne provoquait pas de problème. À peu près comme dans le cas de la Yougoslavie, mais qui, à partir du moment où les frontières administratives entre ces pays devenaient des frontières étatiques, pouvaient provoquer des soulèvements des forces et des sentiments nationaux, et mais aussi l'action des forces nationalistes. On a pu l'observer pas seulement dans le cas de l'Ukraine, mais tout récemment et dans la forme encore plus violente entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le Karabakh. Voilà pourquoi toute la démarche de Gorbatchev était la tentative de transformer l'ancien empire soviétique par des moyens de la réforme politique en une sorte de l'espace commun de genre de l'Union européenne à l'Est, parce qu'il voyait tout le danger de l'éclatement des foyers du nationalisme, de séparatisme dans la forme la plus violente sur ce territoire. Et la deuxième et la troisième raison pour laquelle Gorbatchev est resté discret pour ce qui concerne le cas de l'Ukraine notamment, bon, il était conscient de ce que la crise entre des relations entre la Russie et l'Ukraine était largement provoquée par la perspective annoncée de l'association de l'Ukraine, de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, comme par exemple le projet similaire annoncé par les autorités géorgiennes en 2008 a provoqué un conflit entre la Russie et la Géorgie.
Okay. Allô, M. Gratchov, vous m'entendez?
Oui.
Parfait. Voilà, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, d'après ce dont vous avez été témoin, est-ce qu'en 1991, l'Occident avait effectivement promis à la Russie de ne pas étendre le NATO, l'OTAN, du côté russe, c'est-à-dire avec les pays baltes, etc. Et c'est voilà, je voulais vous demander votre témoignage.
D'accord. Et vous m'entendez maintenant?
Oui, parfaitement.
Ok, très bien. Donc, la question de l'OTAN, c'est une sorte de question serpent de mer qui disparaît, qui réapparaît. Voilà, il faut le partager en deux parties. La première, c'est que, comme je venais de l'évoquer, la vision de Gorbatchev, le projet de Gorbatchev, c'était le remplacement des deux blocs militaires en Europe par un système de sécurité collective. Et c'était dans cette perspective que Gorbatchev a accepté la dissolution du pacte de Varsovie, souhaitant et espérant à ce que la même démarche va être suivie côté des pays de l'OTAN. Et c'était en partie déjà, ce processus en partie déjà engagé par la signature de la Charte pour la Nouvelle Europe signée à Paris en automne 1990. Cette charte a été signée, c'est vrai, suite à ce que, en hiver 90, après la chute du mur de Berlin, et que la perspective de l'unification de l'Allemagne a, d'une façon accélérée et inattendue pour tout le monde, pas seulement pour Gorbatchev, mais aussi des dirigeants comme Kohl, comme Mitterrand, et Thatcher et Bush, a mis sur l'agenda immédiat la question de l'entrée de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN. Et Gorbatchev a donné son accord à ce que l'Allemagne unifiée choisit librement sa voie et son alliance après l'unification. Il, en discutant de la question avec Baker, le secrétaire d'État et Kohl américain, et Kohl ensuite, il a proposé cette formule, c'est-à-dire le libre choix, comme je dis, par l'Allemagne unifiée de son entrée dans l'OTAN ou bien de sa neutralité, un peu suivant l'exemple de l'Autriche en 1955. Mais il faut bien le rappeler, les dirigeants, d'abord américains, Baker, mais les autres dirigeants occidentaux, ont assuré Gorbatchev de ce que, dans le cas de l'entrée de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN, les structures militaires de l'OTAN ne bougeront plus, n'avanceront plus vers l'Est. Faut bien rappeler qu'en ce moment, le pacte de Varsovie était bien là et Gorbatchev, sur la base de ses assurances, a accepté à ce que quelques mois plus tard, pendant la conférence à Paris, le projet de la formation de la constitution du système de sécurité collective pour l'Europe vienne remplacer les deux blocs militaires. Bon, la suite des événements l'a trahi en quelque sorte à la fois chez lui en Union soviétique, puisque lui à la tête de la Russie, il a été remplacé par Yeltsin. Côté occidental, c'était Bush qui a perdu ses élections et qui a été remplacé par Bill Clinton. Et après l'éclatement de l'Union soviétique, apparemment, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont choisi de croire comme si ces engagements politiques et ces promesses étaient accordés à un État, l'Union soviétique, et à un dirigeant, Gorbatchev, alors que ni l'un ni l'autre n'étaient plus là, et donc ils ont choisi de profiter de cette faiblesse de leur ancien rival qui s'est brisé en une quinzaine de morceaux, et d'avancer comme si aucun des engagements politiques n'avait été formulé.
Bonjour André.
Bonjour.
Oui. Dans l'un de vos ouvrages, vous faites référence à la mentalité russe, comme quoi elle a besoin d'être gouvernée par une force autoritaire, de caractère autoritaire. Est-ce que vous pourriez développer ce point et faire le lien avec l'évolution de l'arrivée de Poutine, de son développement, et éventuellement des décisions guerrières? Ou est-ce que c'était un avis général? Je n'allais pas dire sans importance, mais un avis sur une mentalité de l'histoire littéraire. Merci.
Bien, merci pour la... Pour la question, elle me donne l'occasion de rappeler le titre d'un de mes de mon bouquin que j'ai écrit et publié en français, qui s'appelle « Le passé de la Russie est imprévisible ». Voilà. Bon, la grande question, est-ce que les Russes, par nature, en quelque sorte, sont plus inclins ou sont, je ne sais pas, aussi masochistes que d'être nostalgiques des tsars ou d'un Staline, au point que, à partir du moment où ils ont une chance inattendue d'être gouvernés par les dirigeants moins féroce, voilà, elles en sont pas tellement contents. Bon, je crois qu'aucun des peuples ne peut pas être génétiquement bien défini comme étant inclin ou je ne sais pas plus chercheurs, enfin de la main de fer ou des régimes autoritaires, qu'ils soient russes, qu'ils soient allemands, n'oublions pas le terrible expérience du peuple allemand pendant les années 30 et 40, n'oublions non plus Mussolini en Italie. Et pourtant, aucun de ces peuples n'est soupçonné d'être particulièrement, inclin de chercher à la première occasion un main de fer pour être dirigé. L'expérience de Gorbatchev elle-même, pour moi, est l'exemple de ce que la Russie ni les Russes ne sont pas condamné à à rester dans le régime autoritaire. Même si, et ça on ne peut pas nier, il est évident que l'histoire russe, l'histoire d'un pays qui a fait tout, est un énorme espace qui occupe en partie le continent européen, en partie s'étend vers l'Asie, et donc qui est eurasienne non seulement par la géographie, mais par son histoire, et on peut dire sa culture. Il est vrai que cette histoire, la marque en fer, voilà, par ces siècles des règnes des dirigeants féroces. Mais en même temps, il s'agit d'un pays profondément européen, par sa culture, par son histoire, par, je dirais, son orientation spirituelle et culturelle. Qu'est-ce que serait la culture européenne sans l'apport de la Russie? Vous pouvez aller jusqu'au Pacifique, jusqu'à Vladivostok, pour avoir le sentiment comme si vous n'étiez pas l'Europe. Mais en même temps, il y a cette confrontation, cette contradiction intérieure pour la Russie que peut-être les autres peuples ne possèdent pas, parce que la frontière entre l'Europe et l'Asie, pour la société russe, n'est pas seulement une frontière géographique, elle est culturelle, elle est psychologique. La preuve, c'est les grands débats qui avaient marqué l'histoire culturelle, l'histoire de la littérature russe dans le 19e siècle, entre les occidentalistes et les slavophiles. Reste à voir de quel de ces deux côtés de la Russie cherche à profiter la classe politique et les dirigeants. Pierre le Grand, c'était quelqu'un, un grand tsar de la Russie, qui a déclaré son intention de transformer sa Russie en une partie intégrante de l'Europe. Poutine, lui aussi originaire de Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre, au départ, il annonçait pratiquement la même ambition, le même projet, et l'intention d'européaniser la Russie de point de vue de son évolution politique et démocratique. Au bout de 20 ans de son règne, il s'est rapproché beaucoup plus d'Ivan le Terrible qu'en s'éloignant de Pierre le Grand. Mais c'est peut-être c'est l'effet du pouvoir, et c'est peut-être aussi un processus de dégradation que marque tout dirigeant qui reste trop de temps au pouvoir. On peut en trouver des autres exemples dans les autres pays et sur les autres continents.
Merci pour cette réponse. Quelqu'un d'autre a-t-il une question à poser? Moi, je voudrais en poser une, en vrai. C'est que, par exemple, si on regarde la dimension de l'Ukraine actuelle, c'est un territoire très étendu, beaucoup plus grand que la France. Si on regarde sa composition ethnique et son histoire, avec une partie de population d'origine polonaise, une petite partie de population d'origine hongroise, une petite partie de population d'origine roumaine, une partie beaucoup plus grande de population d'origine russe. est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que l'Ukraine, sortie du système soviétique, adopte un statut de neutralité internationale qui correspondrait à son nom, qui est celui d'une marche frontière entre l'Est et l'Ouest de l'Europe? Voilà la question que je me pose.
La fin de la question, vous pouvez pas la, vous pouvez la répéter hein, encore une fois, plus près de, du micro, s'il vous plaît.
Comment?
La fin de la question.
La question, c'était de savoir, compte tenu de son mélange de populations d'origine différente, de sa position de marche frontière entre l'Ouest et l'Est. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que l'Ukraine adopte un statut de neutralité internationale, comme ce fut le cas de l'Autriche, par exemple, ce qui aurait peut-être évité la situation actuelle? Voilà.
Question. D'accord. Oui, ça c'est compris. Bon, écoutez, là... Évidemment, bon, je suis obligé de rappeler que dans la vision de Gorbatchev, la meilleure façon d'éviter l'émergence de ce genre de conflit entre l'ancienne métropole, la Russie et l'Ukraine, mais aussi certaines autres parties de l'ex-URSS, ça aurait été une sorte du maintien de l'espace commun dans une forme de l'union confédérale s'inspirant du modèle de l'Union européenne. Ce qui permettrait, c'est bien correctement constaté, vu la multitude de nationalités, les dispersions des minorités nationales, ethniques et religieuses à travers tout le territoire de l'ex-Union soviétique, d'éviter les formes violentes des conflits nationaux et nationalistes. Encore une fois, bon, je suis obligé d'évoquer la violence du conflit entre les Arméniens et les Azéris qui jusque-là, dans le cadre de l'Union soviétique, parvenaient à coexister d'une façon plutôt tranquille et même amicale. Mais à partir du moment où cet ancien État historique s'est éclaté, qu'il était... coupé d'une façon parfois arbitraire par des nouvelles frontières étatiques et que la multitude des différentes ethnies s'était retrouvée dans le statut des étrangers sur les territoires qu'ils considéraient comme leurs propres depuis les siècles de leur vie, eh bien, évidemment, la forme d'une certaine neutralité par rapport à des structures rigides, menaçantes, militaires, comme l'OTAN, aurait évidemment permis d'éviter à ce que l'extension de l'espace de ce bloc militaire ne soit pas pris par la Russie comme la montée, l'augmentation de la menace stratégique ou de la menace pour sa sécurité. Voilà pourquoi la logique politique, mais la logique tout court, aurait suggéré ce que l'Ukraine sert plutôt de pont entre les parties est et ouest de la Russie. C'était d'ailleurs le choix qui avait été fait par la Finlande qui a choisi de rester, pas seulement l'Autriche, qui ont choisi de rester neutres. Exactement à cause de leur proximité avec la Russie et en cherchant à éviter à ce que le rapprochement des structures militaires d'un bloc ennemi depuis l'époque de la guerre froide n'augmente pas la tension dans les relations entre les voisins. Donc de ce point de vue, ça aurait été évidemment une formule, de mon point de vue, préférable pour l'Ukraine. Sauf que maintenant, au bout de presque 2 ans de ce conflit violent, de cette guerre, je ne sais pas si elle peut être encore envisagée.
Merci. D'autres questions, vous êtes plusieurs? Non? Personne n'a de questions? Eh bien, si plus personne n'a de questions, André, on va te remercier beaucoup pour cette intervention. Nous regrettons encore une fois de n'avoir pas eu ta présence physique et ta présence spirituelle était avec nous et c'est très bien ainsi. Et nous allons voir si tout à l'heure, par exemple, on peut continuer encore avec les gens de l'association russophone de Montpellier et peut-être d'autres personnes, continuer un petit débat, si tu es toujours disponible, pour l'animer. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Et donc, à tout à l'heure pour une autre.
Merci à vous tous, en espérant à ce que, eh bien, d'ici quelques temps, le lien de la SNCF entre Paris et Montpellier sera rétabli.
Oui, on le dit ensemble bien tous. Merci.
OK, d'accord. Bon, salut tout le monde et merci.
Merci beaucoup. Maintenant, tu as le droit de souffler un peu.
Oui.
Avant de revenir nous voir dans quelques instants.
Très bien, très bien. Bon, écoutez, pas de récompense avec un verre du vin de l'Hérault, mais bon, ça sera pour plus tard.
Très bien, merci.
Merci, au revoir.